Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Comment arriver à lire la trace de Dieu dans sa vie de tous les jours? C'est un peu le pari fou que relèvent les Cotopaïs, centre de formation chrétienne tenu par les jésuites présents à Toulouse et dans le Grand Sud-Ouest, et ouvert à tout à chacun. Un pari fou qu'ils poussent jusqu'à l'extrême, puisqu'ils proposent même d'apprendre à lire la présence de Dieu dans la rue. À l'heure où les voyantes connaissent un réel succès et où beaucoup se demandent si Dieu ne s'est pas définitivement retiré de notre planète bleue, je vous propose ce matin de découvrir avec les Cotopaïs quelques secrets de discernement. Voilà pour cette émission ce matin dans Cotopaïs ou l'art de discernement. Je reçois le frère Yves Stössel. Vous êtes jésuite et accompagnateur au Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour.
Sophie Beauchamp, vous êtes Xavière, accompagnatrice au Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour.
Et Damien Pichard, vous êtes membre d'une communauté de vie chrétienne, CVX. On expliquera un petit peu plus loin ce que c'est. Et vous avez suivi une de ces retraites dans la rue. Bonjour.
Bonjour.
Alors, défi, s'il en est, de convaincre nos auditeurs que l'on peut voir des traces de Dieu dans la rue, et peut-être après, en sortant de l'émission, avoir quelques clés, chacun pour essayer de lire ça lorsqu'ils se promèneront dans la rue, en tout cas dans leur vie quotidienne, ou pour venir suivre une retraite au sein des Cotopaïs. Mais avant de parler des Cotopaïs, de ces retraites, etc., je voulais, avec vous, revenir un petit peu sur la figure de Saint Ignace, parce qu'il n'y aurait pas d'exercice spirituel, vous ne seriez pas là aujourd'hui, même peut-être,
oui.
D'exercice spirituel dans la rue ou autre, s'il n'y avait pas eu Ignace de Loyola. Alors, Ignace de Loyola pour les nuls, si vous deviez nous le présenter à gros traits, et puis je vous aiderai, frère Yves Stössel.
Merci. Alors, effectivement, Ignace de Loyola est un homme comme chacun de nous, qui a vécu au XVIe siècle, alors que l'Europe s'ouvrait au monde et à l'humanisme. Donc il est né en 1491, et c'est à partir d'une profonde expérience de Dieu qu'Ignace élabore les fameux exercices spirituels dont on parle souvent. Et puis il commence à en faire bénéficier d'autres compagnons, Saint François-Xavier entre autres, Pierre Favre et ainsi de suite.
Alors attendez, avant d'arriver aux exercices spirituels, donc Ignace de Loyola est donc né en Espagne, c'est un Espagnol, donc comme vous dites,
qui est né
donc au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire sa conversion? C'est un homme qui a eu une grande éducation, qui a une vie assez mondaine.
Oui, exactement.
Et qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il ait cette conversion?
Oui. Alors Ignace est né dans un château à Loyola, dans le Pays Basque, et il était page à la cour du roi d'Espagne, puis gentilhomme au service du vice-roi de Navarre. En fait, il reste assez libre à l'époque, et il est assez libre et dans les affaires d'amour et d'honneur. Voilà. Mais il vit une expérience particulière lors du siège de Pampelune, où il essayait de mener ses troupes pour vaincre les Français. Et là, il est blessé. Et à partir de cette blessure...
Gravement blessé, hein ?
Gravement blessé au genou, oui. Et à partir de cette blessure, il va vivre une expérience spirituelle assez profonde qui va le transformer.
Alors, c'est-à-dire qu'il se retrouve en fait donc chez lui, alité, et voilà. Il va commencer à lire plutôt que des livres de guerre, des livres de saints.
Voilà. Alors, il prend conscience à ce moment-là qu'il y a différents mouvements qui l'habitent. Un désir de vivre... qu'il porte en lui. Et puis, en étant attentif à ses mouvements, il se rend compte qu'il y a des pensées qui le rendent profondément vivant et d'autres qui lui donnent que des joies passagères. Voilà. Et les pensées qui le dynamisent et lui procurent une joie profonde et pas seulement superficielle sont celles qui l'invitent à se mettre à la suite du Christ, comme Saint Dominique et Saint François. Et il décide donc de se mettre en route.
Est-ce qu'on a des récits de cette conversion, en fait, ou est-ce que c'est juste de manière rétrospective, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il raconte quelque chose
Alors,
de cette conversion?
Oui, il raconte ceci dans un... Il a fait un compte-rendu de ce qu'il a vécu, enfin de sa vie après sa conversion, à un de ses secrétaires qu'il a noté, et ça a donné le récit du pèlerin.
Donc Ignace se convertit, et en fait vous avez l'air de dire que c'est au cœur même de cette expérience que naissent en fait les exercices spirituels, c'est ça? C'est...
Oui, alors c'est au cœur même de cette première expérience, mais il en a eu d'autres de conversion, parce que c'est tout un chemin. Et il a eu ce génie de pouvoir prendre conscience de ce qu'il vivait d'une façon très claire, et d'en pouvoir ensuite rédiger ce qu'il a vécu et en faire les exercices spirituels.
Alors, si l'idée, c'est pas de faire une émission sur Ignace de Loyola, mais malgré tout, peut-être à gros traits, la suite de sa vie. Donc, il a cette conversion, et puis, j'allais dire petit à petit, en tout cas, il va fonder donc les Jésuites. Donc, oui. Les Jésuites qui vont naître à Montmartre, en France.
Oui.
Hein, quelques frères qui vont quoi, en fait, qui vont faire des premiers vœux, c'est ça?
Oui, c'est ça, en gros, si on veut. Ils vont se promettre de poursuivre ensemble et de garder des liens pour se mettre à la suite du Christ. Mais c'est un peu plus tard, c'est en 1540 que le pape Paul III confirme la compagnie. Et donc c'est à ce moment-là que naît la compagnie de Jésus.
Et alors vous dites, donc Ignace de Loyola, c'est cette conversion et c'est cette fondation. Vous dites en fait, c'est un homme qui a vécu après différentes conversions. Qu'est-ce que ça dit en fait?
Oui, il y en a plusieurs. Il y a eu donc cette première conversion à un moment de sa maladie, avec sa blessure. Et puis ensuite, il y a eu des conversions à Morez, parce que donc il a commencé à se mettre en route pour faire comme Saint Dominique, ou mieux que Saint Dominique et Saint François, mais il a rapidement découvert que c'était pas ce que le Seigneur l'appelait vraiment à faire. Et donc il y a eu une deuxième conversion où il s'abandonnait davantage à la volonté de Dieu. Puis il a commencé à partir sur les routes pour rejoindre Jérusalem. Et donc il a fait tout un voyage pour aller jusqu'à Jérusalem où il voulait rester, mais les autorités sur place ne voulaient pas le garder et donc il a dû revenir sur Rome. Et à ce moment-là, il s'est demandé mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour aider les âmes, parce que sa conviction profonde c'était qu'il avait ce désir d'aider les âmes à suivre le Christ comme lui, il a été amené à le suivre et d'une façon à être totalement libéré intérieurement. Donc pour faire pour aider les âmes, il a pris conscience qu'il devait aller faire des études, et donc il est parti à Barcelone, puis à Paris, pour faire ses études, et c'est donc tout un cheminement qu'il a vécu sur les routes, et comme pèlerin, qui l'a conduit à fonder ensuite la Compagnie de Jésus.
D'accord, donc ça c'était avant qu'il fonde justement, avant ce fameux épisode à Montmartre.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Donc en tout cas c'est donc une grande figure de sainteté, un homme donc, qui a vécu une conversion radicale, qui était un intellectuel, et donc qui a écrit les exercices spirituels. Alors est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ont été écrits ces exercices spirituels, et avant qu'on un peu plus tard dans l'émission, qu'on les détaille?
Alors les circonstances, c'est tout ce cheminement que je viens de dire, c'est-à-dire que les exercices, il ne les a pas écrit du jour au lendemain. C'est tout au long de son cheminement spirituel et son cheminement intérieur qu'il a découvert ce qui l'aidait à se mettre davantage à l'écoute de la volonté de Dieu pour sa vie. Et donc c'est petit à petit qu'il a commencé à noter des choses, et puis comme il voulait les partager, ce qu'il vivait intérieurement et sa spiritualité avec d'autres, il a commencé à en parler à des amis. Et donc il a vu que ça portait du fruit. Et donc c'est toujours à partir de cette expérience personnelle, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, donc c'est toujours à partir de l'expérience personnelle qu'il a petit à petit mis en œuvre le parcours des exercices qui devient un livret pour accompagner, mais qui part vraiment d'une expérience qu'il a vécue lui-même et dont il a fait profiter d'autres.
Donc si vous deviez résumer les exercices spirituels en fait, ou ce qui est dit, alors on y reviendra plus tard, c'est quoi? C'est comme une méthode en fait, quoi, pour arriver à lire la présence de Dieu dans sa vie, ou pour arriver à rencontrer Dieu? Est-ce que c'est...
Oui, on peut le dire dans ce sens-là. C'est vraiment une manière de se mettre à l'écoute des mouvements qui nous habitent, des mouvements intérieurs qui nous habitent, pour sentir à travers ces mouvements-là, tiens, qu'est-ce qui dans ces mouvements me rejoint personnellement et rejoint mes désirs profonds et qui me donne de la vie en profondeur. Parce que là où je vis profondément, je suis en lien avec la volonté de Dieu. Voilà. Et donc c'est faire attention pour sentir ces mouvements intérieurs et pour repérer ceux qui me disent ben c'est vers là qu'il faut que je chemine et que je marche pour suivre le Christ.
Alors, du coup, on va, dans la deuxième partie de l'émission, on va plonger un petit peu plus dans ces exercices, avec entre autres comme exemple dans ces exercices dans la rue. Toujours est-il que, donc, à la suite de Saint-Ignace, je le disais en introduction, dans le Grand Sud-Ouest, il y a donc le Cotopaïs qui donne différentes formations, qui propose de vivre ces exercices. Est-ce que vous pouvez nous présenter, c'est pareil à gros traits, Sophie Beauchamp, ce que sont les Cotopaïs?
Alors, Cotopaïs, c'est un centre spirituel jésuite comme il y en a d'autres d'ailleurs en France, à Lyon, à Paris. La particularité de Cotopaxi, c'est qu'il n'a pas de lieu d'hébergement. Les autres centres spirituels sont des lieux d'accueil. Et ça donne une physionomie assez intéressante, assez particulière. Donc c'est surtout le sud-ouest, avec bien sûr Toulouse, où il y a les permanents. Mais il y a aussi des équipes à Pau, Bayonne, Perpignan, Agen, Montauban, voilà, qui proposent dans les lieux où ils sont des activités pour faire vivre de la spiritualité ignatienne.
D'accord, d'accord. Donc c'est une multinationale avec ses délocalisations, donc je plaisante. est-ce que vous pouvez nous dire à gros traits du coup ce que vous présentez ? C'est-à-dire que donc il y a des exercices spirituels,
oui.
On y reviendra, mais pas que. Sont les différentes activités ou formations qui sont proposées par les Cotopaxi ?
Alors, il y a donc des activités spirituelles qui reprennent la pédagogie des exercices, mais donc il y a par exemple des parcours sur la parole de Dieu, comprendre, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Il y a des propositions sur des week-ends de halte spirituelle, s'arrêter pour relire sa vie. La relecture est importante dans la pédagogie ignatienne pour être à l'écoute, justement, comme disait Yves tout à l'heure, être à l'écoute de ce qui nous habite profondément. Voilà, s'arrêter pour relire ça et orienter, ordonner sa vie. Donc, ça peut se faire sur un week-end, ça peut se faire par des parcours en soirée.
Voilà. Avec différents supports.
Avec différents supports, la parole de Dieu, le cinéma.
Alors quand vous dites le cinéma, est-ce que vous pouvez donner une illustration ? Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à voir les traces de Dieu via le cinéma ?
Alors le cinéma, c'est un peu un miroir de ce que vit l'humanité d'une certaine manière. Donc c'est aussi, c'est toujours se mettre à l'écoute, mais se mettre à l'écoute par une médiation. Donc ça peut être la médiation, la principale c'est la parole de Dieu, mais il y a quelque chose de cette parole qui peut transparaître aussi dans d'autres, par d'autres supports, notamment le cinéma, même si les personnes qui sont réalisateurs ne sont pas croyantes. Quoi. Ça dit quelque chose de l'humanité, de ce que vit l'humanité. Donc en regardant et en décryptant un film, on peut se dire, ben voilà, et puis c'est aussi, c'est décrypter le film, mais c'est aussi... Et c'est ça le plus important, c'est où est-ce que ça vient me rejoindre ? Qu'est-ce que ça provoque en moi ? Et qu'est-ce que ça me dit de ce que je vis moi-même ?
Est-ce que vous auriez un exemple de film alors qui vous ait frappé ou qui puisse parler de...
Alors par exemple, un film que j'emploie assez fréquemment dans des sessions, notamment avec des jeunes sur le discernement, c'est le film Barbara. Alors je ne sais plus le réalisateur, mais c'est une femme qui vit à Berlin-Est, qui est médecin, avant la chute du mur, bien sûr. Et il y a tout un cheminement vers la liberté intérieure qui va lui permettre de choisir en liberté et en vérité. Et là, il y a vraiment quelque chose, on se rend compte que son idée première, c'est de passer à l'ouest. Et elle a un amant qui la rejoint et qui essaye de la faire passer à l'ouest. Et en même temps, elle est médecin et on sent que cette profession-là est quelque chose d'important. Mais ça, elle l'occulte complètement dans la première partie du film. Et il y a quelque chose, bon, il y a l'intervention d'une jeune qu'elle va aider, tout ça. Mais à un moment donné, on sent que l'arrivée de cette jeune provoque en elle quelque chose qui lui fait dire... Mon désir profond n'est pas de la liberté que je crois être la meilleure à l'Ouest, c'est de vivre de mon métier. Donc, elle va rester à l'Est, finalement,
voilà, donc
alors qu'elle a la possibilité de partir. Mais elle fait un vrai choix.
Exemple, voilà. En tout cas, donc ça, c'est les sessions cinéma et spiritualité. Il y a même des retraites cinéma.
Oui, il y a des retraites aussi. Ouais.
Donc, ces activités, enfin, ces exercices spirituels et puis après, ces itinéraires spirituels sont proposés à tout le monde. Et puis, vous avez des propositions spécialement pour les jeunes. Et vous êtes aussi un lieu de formation spirituelle.
Oui.
Vous formez à l'accompagnement.
Oui, on forme à l'accompagnement spirituel. On forme à l'écoute aussi.
C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quoi l'accompagnement spirituel ou l'écoute
Alors, l'écoute, c'est assez large. Par exemple, quelqu'un qui est un accueil paroissial, parce que, il est amené à accueillir des gens, donc il y a une certaine posture qui permet d'écouter l'autre vraiment. Donc voilà, l'accompagnement spirituel, c'est un peu plus, c'est aider l'autre, c'est ce que disait Ignace, aider les âmes, aider l'autre à comprendre quelque chose de ce qu'il vit. Voilà, c'est pas de la direction spirituelle, enfin, c'est vraiment cheminer avec l'autre. Donc il y a une dimension d'écoute, bien sûr, mais aussi une dimension d'aide au discernement, de... voilà, je ne saurais pas dire un peu autre chose.
Mais... On va faire une première pause et puis après, du coup, vous allez rentrer dans le détail peut-être des exercices spirituels ou en tout cas de cette pédagogie et on comprendra un petit peu mieux. Voilà, donc émission Koto Pais sous l'art du discernement. Ce matin, cette émission donc Koto Pais sous l'art du discernement avec le frère Yves Stössel, qui est donc jésuite et accompagnateur au Koto Pais, Sophie Beauchamp, qui est Xavier et accompagnatrice également au Koto Pais, et Damien Pichard, membre d'une communauté de vie chrétienne CVX, aussi de spiritualité ignatienne, et qui a suivi, entre autres, une retraite, des exercices spirituels dans la rue. On va y revenir dans cette deuxième partie. Alors, avant qu'on parle de ces exercices si particuliers, qui, si j'ai bien compris, ne suivent pas tout à fait la méthodologie classique, je voulais revenir un petit peu sur ces exercices spirituels. Avant toute chose, il faut dire, alors est-ce que de même, enfin, ma question est plutôt, est-ce que c'est un préalable de croire en fait en Dieu, de croire que Dieu nous aime, pour suivre ces exercices, ou est-ce qu'il n'y a aucun préalable pour suivre ces exercices, frère Stössel?
Alors, Ignace, quand il nous fait commencer les exercices, il parle, pour entrer dans les exercices, d'avoir un cœur large et généreux. Donc ça veut dire, il nous invite vraiment à être disponible pour nous mettre à l'écoute de ce qui se passe au fond de nous. Alors, c'est clair que pour Ignace, il s'adressait à des personnes qui étaient croyantes. Par exemple, pour Pierre Fabre, avant de le lui donner, il l'a accompagné pendant 4 ans, avant de donner les exercices tels quels.
Pierre Fabre, qui était un des compagnons d'Ignace.
Voilà.
Premier jésuite.
Il l'a accompagné pendant 4 ans avant de lui donner les exercices de 30 jours. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une certaine disponibilité à avoir et une ouverture de cœur et une foi en Dieu. Mais voilà. Est-ce qu'on peut mesurer notre foi en Dieu? Ça, c'est une autre question. Donc, au moins, avoir ce désir, le désir de vivre une rencontre avec Dieu.
Alors, si j'ai bien compris, un autre préalable aussi, c'est de... peut-être qu'on y reviendra, mais Saint Ignace parle beaucoup des consolations ou des désolations, enfin, oui. Qui sont un peu les états dans lesquels on peut être intérieurement. Ça parle de soi-même, un état peut-être de tristesse, d'abattement, ou au contraire, un sentiment de... un état de joie. Qu'il faut croire aussi que Dieu nous a créés pour le bonheur et pour la consolation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, alors c'est une vision résolument positive de l'homme et de l'humanité et de la création, c'est-à-dire pour nous, compagnons jésuites, quelque chose qui est une conviction qui est vraiment profonde pour nous, c'est que Dieu nous a créés pour le louer, pour le respecter, pour le servir, et à travers cette démarche-là, d'entrer dans une grande joie et un profond bonheur. Donc l'homme est créé pour le bonheur. Ça, c'est une conviction qui nous habite profondément. Et les exercices veulent nous inviter à entrer dans cette joie et dans cette profondeur et dans ce bonheur en repérant ce qui l'a fait croître davantage et en se libérant de ce qui peut nous retenir ou nous emprisonner ou nous enfermer ou qui peut rester des attachements désordonnés.
Alors, ce qui est surprenant, c'est vrai, peut-être quand on n'est pas chrétien ou quand on n'est pas familier de ces exercices spirituels, c'est qu'en fait, Dieu, semble-t-il, fait avec ce que nous sommes. C'est-à-dire que on peut avoir une idée de Dieu ou une image de Dieu. Dieu serait étranger, en fait, à certaines de nos réalités humaines et entre autres, justement, aux sentiments, aux choses qui nous traversent. Est-ce que ça aussi, enfin, en quoi c'est important de le préciser? C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de dichotomie il y a un lien complet entre les deux. C'est-à-dire, Dieu parle à travers toute notre humanité.
Tout à fait. Et je crois que c'est quelque chose de l'ordre de ce qu'on peut appeler chez nous dans notre langage chrétien de l'incarnation. C'est-à-dire, si Dieu est venu nous rejoindre en Jésus-Christ, c'est parce qu'il prend en compte notre humanité comme quelque chose de fondamentalement beau et fondamentalement heureux. Et puisqu'il nous a créés, il nous a créés humains, donc c'est qu'il voulait un partenaire en face de lui, un humain, avec qui il puisse vivre fondamentalement une relation d'alliance et d'amour. Et je crois que ça, c'est fondamental. Quand je disais tout à l'heure que les exercices spirituels, Ignace les a mis en forme, mais c'était à partir de son expérience, c'est vraiment dans notre expérience humaine que Dieu vient nous rejoindre et que l'Esprit vient nous travailler et nous invite à poursuivre un chemin vers le bonheur.
Alors, on va essayer de trouver des exemples, mais il y avait aussi un ou deux autres préalables que je voulais faire avec vous. C'est-à-dire, en présentant les exercices spirituels, en tout cas en préparant l'émission, j'ai compris qu'il n'y avait pas comme deux poumons, enfin, il y a comme deux réalités à l'intérieur de ces exercices. Le fait que ces exercices soient une manière d'apprendre à prier, en fait, comme des écoles de prière, et en même temps que souvent, les exercices, quelle que soit, on va dire, la durée, ce sont des temps privilégiés pour apprendre à discerner la trace de Dieu dans sa vie. Alors, vous me direz, c'est un peu les deux. Mais comment vous réagiriez à cette présentation?
Alors en fait, oui, effectivement, quand vous parlez d'une école de prière, c'est essentiellement une école de prière dans le sens où on invite les gens à vraiment se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et d'entrer, de se laisser transformer par cette parole-là, en par exemple en imaginant les lieux. Prenons un exemple, celui de la femme pécheresse qui va rencontrer Jésus chez Simon-Pierre, chez le pharisien, chez Simon, et qui, donc on invite les retraitants à imaginer la scène, donc à utiliser leur faculté d'imagination pour voir ce qui se passe, quels sont les personnages qui sont présents, qu'est-ce qui les traverse comme sentiment. Et puis peut-être aussi même, le retraitant, on l'invite souvent à se mettre dans la scène, comme s'il participait à ce qui est en train de se vivre. Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on invite les gens à vivre cette expérience-là? C'est pour être de plus en plus dans un cœur à cœur et avec le Christ et le connaître intérieurement. Et plus on sera, ça s'incarnera, dans, plus ce cœur à cœur sera profond.
D'accord, donc ça c'est le côté école de prière peut-être,
oui, voilà.
Et pour le côté discernement, enfin, vous êtes réputé pour être les pros du discernement. Quand on a des grandes décisions à prendre, il faut faire une retraite ignatienne.
Ouais, je pense que ce qui est réputé, c'est les exercices, qui sont un parcours qui effectivement, qu'Ignace a développé, entre autres, pour aider les personnes, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à découvrir vers où le Christ veut les conduire pour vivre et concrètement ce bonheur dans leur vie, à la suite du Christ et en faisant la volonté de Dieu. Et les exercices, donc c'est un parcours avec plusieurs étapes qui permet de repérer avant tout ce qui est essentiel dans la vie et repérer ce qui nous empêche de vivre vraiment. Et donc, à travers ce parcours, de petit à petit, arriver à décider, c'est ça ce que je désire vivre et ce qui est l'essentiel pour moi et je vais le suivre.
Alors donc à vous entendre, en fait, à partir du moment où on a un cœur large et généreux, où on a un début de foi, on peut faire des exercices spirituels, petits, grands, enfin on peut faire une retraite. Et j'ai envie de dire, c'est garanti sur facture qu'on peut petit à petit apprendre à voir les traces de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, voire même essayer d'entendre en fait ce qui nous incite à vivre. Vous y engagez au nom des cotopaïs d'une certaine manière?
Non, pas du tout. La raison est simple, c'est qu'on est des humains. Et quand on est humain, rien n'est garanti à l'avance. C'est toujours un chemin. Et si c'était garanti à l'avance, ce serait une technique. Mais si on respecte l'humain qui est en nous, l'humain a besoin de cheminer. Et peut peut-être avoir besoin de 10 ans pour découvrir quelque chose, alors que les exercices, ça donne en 8 jours. Donc vous voyez, c'est pas une technique qui permet d'arriver à un résultat certain à un moment donné. Non, c'est quelque chose de se mettre à l'écoute et peut-être que finalement l'esprit nous conduit là où au départ on pensait pas du tout aller. Mais ça reste toujours quelque chose qui reste de la délicatesse de l'être humain et il faut veiller à ça.
D'accord, donc c'est pas garanti sur facture, en tout cas ce qu'on comprend c'est que c'est un chemin et ça, on apprend aussi d'une certaine manière. Alors les exercices, si j'ai bien compris, en tout cas la version classique, hein, et puis vous allez après nous parler donc, des exercices dans la rue, il y a 4 grandes étapes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces grandes étapes qui peuvent éclairer aussi le chemin qu'Ignace invite le retraitant à vivre?
Oui, alors il y a une première étape, alors il y en a 4 grandes, mais on pourrait le décliner en plusieurs petites étapes, mais il y a une première étape, c'est de découvrir, le fondement de notre vie, c'est-à-dire qu'on est créé pour louer, respecter et servir Dieu, et donc pour vivre une relation d'amour avec notre Seigneur. Et cette relation d'amour qui se vit avec notre Seigneur, elle se vit par ailleurs et fondamentalement aussi avec les personnes qui nous entourent. Donc ça, c'est la première étape. Mais on se rend bien compte que dans notre monde, il ne suffit pas de dire il faut aimer, parce qu'il y a la présence du mal et de la souffrance. Et ça, c'est la deuxième étape. Prendre conscience que dans cet objectif, dans cette finalité d'être créé pour aimer et servir et Dieu et l'humanité, eh ben, on fait l'expérience du mal. Mais une expérience du mal dans laquelle se révèle aussi la grande miséricorde de Dieu. Donc ça, c'est la deuxième semaine, ou la première semaine.
Oui, parce que la version classique, c'est 4 semaines, c'est ça?
C'est 4 semaines, oui, 30 jours, mais qui peuvent se décliner autrement. Ensuite, l'étape suivante, une fois qu'on a fait cette expérience profonde de la miséricorde de Dieu, comme poussé ou motivé à le suivre d'une façon encore plus profonde. Mais pour le faire d'une manière ajustée, il est important de finalement découvrir, mais qui est ce Christ réellement? et comment est-ce que je peux m'ajuster réellement à lui pour le suivre. Et donc c'est toute une découverte du Christ à travers la méditation, la contemplation de sa vie cachée et de sa vie publique. Et grâce à cette méditation de la vie du Christ, on apprend à le connaître intérieurement et donc on sera comme configuré à lui, comme un couple d'un mari et sa femme qui au bout de 50 ans se connaissent tellement bien.
Oui, j'allais dire oui, parce qu'il faut 50 ans, en 30 jours quand même.
Voilà.
On ne peut pas prétendre connaître le Christ de l'intérieur. Hein, c'est...
Ah, on ne peut pas le connaître d'une façon définitive, jamais. Mais de s'en approcher toujours davantage, oui. Et puis l'esprit est présent pour nous aider. Et ce cœur large et généreux permet un travail de l'esprit en nous. Et puis une fois qu'on a pris conscience de on est configuré au Christ, et ben c'est là qu'on est conduit petit à petit, si c'est le moment, à recueillir le fruit de notre manière personnelle de suivre le Christ. C'est ce qu'on appelle l'élection. Donc c'est ce discernement de comment est-ce que moi, à partir de mon histoire, ce que je suis avec mon caractère, avec tout ce qui m'habite moi, je désire le suivre et vivre avec lui au service de l'humanité.
Ça veut dire quoi l'élection ? C'est-à-dire qu'en fait chacun aurait quelque part, je sais pas, une manière particulière de suivre Dieu, comme une mission.
Chacun, oui, parce qu'on est chacun unique, non pas quelque chose qui est prévu à l'avance, mais comme on a tous une histoire unique, on est tous appelés d'une façon unique à suivre le Christ avec ce qu'on est, parce qu'il nous veut comme ainsi. Et c'est cette richesse d'être tous uniques qui va faire en sorte que quelque chose de l'ordre d'une rencontre réelle puisse se vivre entre nous. Et puis, les deux dernières étapes, c'est dans cette suite du Christ, on va vivre aussi la passion comme à la suite du Christ, et puis la résurrection. Voilà.
Donc ça, c'est la version, on va dire, la version classique, la version
oui,
30 jours.
30 jours.
Après, quand on prend votre prospectus de présentation donc des Cotopaïs, donc ces exercices spirituels, itinéraires spirituels et autres qui sont proposés un peu dans tout le Sud-Ouest, évidemment, vous ne proposez pas que des parcours de 30 jours. Sophie Beauchamp, peut-être, on ne peut pas parler de chacune de ces propositions, mais en tout cas, est-ce qu'il y a dans chacune un peu ce même mouvement qui est proposé à tout le monde, ou si on fait une version courte ou une version... comment dire, en cours du soir ou autre, enfin je sais pas s'il existe en cours du soir, toujours est-il que, est-ce qu'à chaque fois c'est tout ce mouvement qui est auquel vous invitez les retraitants, enfin vous invitez les retraitants à vivre tout ce mouvement, ou est-ce que parfois vous vous contentez juste d'une étape?
Alors on peut, dans les retraites qui sont proposées, parce que là les exercices spirituels c'est vraiment dans le cadre des retraites, ça peut être 3 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 8 jours ou 10 jours. En général, une retraite de 8 ou 10 jours, on peut faire le parcours des exercices, mais ça on va le faire si on sent que la personne est à cette étape là. Donc il y a l'écoute de la personne et du de là où elle en est important. Et on adapte le chemin à partir de ce qu'on écoute de la personne. Après, les propositions de 3 ou 5 jours de retraite, c'est on commence à entrer. Donc, c'est plus sur, on reste plus sur ce qu'on appelle dans les exercices le principe et fondement. Donc, ce que disait Yves tout à l'heure sur l'homme est créé pour respecter, servir, louer Dieu.
C'est-à-dire qu'on essaie déjà d'introduire cette réalité ou à ce mystère.
Prendre conscience de qu'est-ce qui me conduit de ce côté-ci et qu'est-ce qui m'en écarte. Donc c'est une première étape, on pourrait dire, dans le discernement. Dans ma vie, qu'est-ce qui m'aide à aller du côté de la vie et qu'est-ce qui me conduit plutôt du côté de la désolation, de la fermeture, voilà. Donc c'est le fondement. Voilà.
Peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des exercices dans la rue à la fin, et puis en même temps qu'on expliquera la particularité de ces exercices, vous nous donnerez aussi vos témoignages, entre autres vous, donc Damien Pichard, qui en avait suivi un. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du rôle de l'accompagnateur ? Parce qu'on peut se dire, c'est vrai que ce matin, quand j'introduisais l'émission auprès de Jean-Pierre Allot, je lui disais, on va recevoir des gens qui apprennent à voir les traces de Dieu dans la rue. En fait, il s'est dit, oula, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. En fait, tout ce travail d'accompagnement ou de discernement, on ne peut jamais le faire tout seul. C'est un peu un postulat de l'Église. Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui s'interrogent là-dessus ? On peut aussi être gêné, en fait, d'avoir quelqu'un qui rentre dans notre intimité comme ça. Quel est le rôle de l'accompagnateur ? Pourquoi il est important et quelle est sa place ?
Oui. Alors, pour moi, le rôle de l'accompagnateur, c'est avant tout d'ouvrir un espace de parole. Voilà. C'est-à-dire que le fait que moi, qu'une personne me parle et que je l'écoute d'une façon complètement sans jugement, donc vraiment d'une façon complètement ouverte, ça ouvrira pour elle un espace de parole et cet espace de parole l'aidera à davantage prendre conscience de ce qu'il habite intérieurement. Parce que souvent, lorsqu'on ne peut pas mettre en mots ce qui nous habite, tout ça reste flou et reste parfois des ténèbres. Le fait de pouvoir le dire à quelqu'un va ouvrir pour cette personne un espace de parole en vérité, enfin le plus en vérité possible.
Et donc c'est quoi ? C'est comme un psy spirituel en fait ? C'est...
Alors, il faut faire très attention avec ça. Je dirais pourquoi pas, mais il faut vraiment faire prendre conscience qu'une chose, essentielle, c'est que on est à trois. C'est-à-dire, il y a la personne, il y a l'accompagnateur et il y a l'esprit. Pour un psy, il y aura pas d'esprit. Mais pour nous, accompagnateurs, c'est l'esprit qui travaille avant tout. Et c'est permettre à la personne qui est accompagnée de découvrir comment justement l'esprit travaille en elle. Alors que pour un thérapeute, pour un psy, c'est essentiellement la personne, comment elle travaille en elle. Mais nous, accompagnateurs, on essaye de se mettre à l'écoute de l'esprit qui travaille dans la personne.
D'accord. Donc l'accompagnateur, en fait, permet de mettre des mots, en fait, sur les mouvements intérieurs de son âme.
Voilà.
Quelle est sa place ? Est-ce qu'il a un rôle de direction ? C'est juste un miroir ?
Alors, il a un rôle de direction dans la mesure où, par exemple, lorsqu'on fait une retraite, il y a un parcours qui est proposé. Donc, il invite le retraitant à faire le parcours. Donc, il le dirige dans le parcours. Mais il ne dirige pas la personne dans ses propres décisions qu'elle a à prendre. C'est la personne qui, en faisant ce parcours, va, si elle est ouverte au travail de l'esprit en elle, va petit à petit découvrir par elle-même ce vers quoi elle est appelée et les décisions qu'elle aura à prendre.
Alors, on va faire une deuxième pause musicale et après, on va parler de ces exercices dans la rue. Et puis, on aura donc les témoignages de Sophie Beauchamp et de Damien Pichard. Peut-être que vous avez pris des décisions après ces exercices dans la rue. On verra ça après cette pause musicale.
À Mirande, 104.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Cotopaïs ou l'art du discernement. Et si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec le frère Yves Stossel, jésuite accompagnateur au Cotopaïs. Sophie Beauchamp, qui est Xavier et accompagnatrice au Cotopaïs, et Damien Pichard, membre d'une communauté de vie chrétienne CVX, voilà, groupe, on va dire, de laïcs, donc de spiritualité ignatienne, qui a suivi donc des exercices spirituels dans la rue. Alors, on en parle maintenant. À l'intérieur de la foule de propositions, la multitude de propositions que proposent les Cotopaïs, d'ailleurs il faut se procurer tout simplement son programme 2016-2017, on donnera les coordonnées à la fin, il y a donc des exercices spirituels dans la rue. Alors qu'est-ce que c'est que ces exercices spirituels dans la rue, Farid Stossel, vous me disiez en préparant l'émission que ça vient d'Allemagne, mais c'est-à-dire,
oui.
Alors, quelle particularité?
Alors la particularité, c'est de chercher et trouver Dieu en toute chose, mais ça veut dire aussi, par exemple, dans nos rues, dans les rues d'une ville. Alors, je vous dis un petit peu l'historique. En fait, c'est un jésuite allemand, Christian Ehrwartz, qui, il y a une trentaine d'années, a ouvert une communauté dans un quartier populaire de Berlin pour accueillir des gens de la rue ou des gens sans papier. Donc, ils vivaient avec eux, ils étaient à trois jésuites, et ils vivaient avec eux une expérience d'accueil de ces personnes-là, jusqu'à ce qu'elles puissent trouver d'autres lieux pour être hébergées. Donc, en vivant cette expérience avec ces personnes-là, il a découvert petit à petit que ce qui se vivait dans la rue leur faisait entrer dans une relation aux autres qui était souvent beaucoup plus fraternelle et plus profonde.
Je veux dire que l'expérience qu'ils avaient eue de la rue,
transformait ces personnes-là.
D'accord.
Et elle les amenait à très rapidement aller à l'essentiel. Et en fait, Christian a aussi fait une expérience lui-même dans la rue lors de la chute du mur de Berlin. Il y avait des sans-domicile fixes qui s'étaient installés sur les espaces où se trouvait le mur. Et au fur et à mesure, ces espaces ont été rachetés par des promoteurs immobiliers, et donc ces gens étaient expulsés de ces lieux-là. Et Christian a manifesté avec eux pour qu'on puisse leur trouver des lieux pour se reloger. Et il était avec eux dans la rue, et c'est là aussi qu'il a pris conscience le fait de ne plus être dans un lieu où on est dans le confort et en sécurité, comme une maison. En fait, une maison, c'est fait pour nous protéger. Il y a quatre murs. Et il y a tout un rythme de vie qui se passe là. Et en fait, il a découvert que dans la rue, il n'y a plus toutes ces protections. Et que peut-être l'esprit peut nous travailler, puisqu'il y a certaines protections qui sont tombées. Certaines de nos défenses sont tombées. Et donc, ce cœur large et généreux est peut-être davantage ouvert. Et l'esprit peut venir nous travailler.
Oui, ce qui ne veut pas dire pour autant que Dieu voudrait qu'on dorme tous dans la rue. C'est...
Non, c'est pas du tout. C'est, voilà. C'est plutôt le fait que ces conditions-là permettent une ouverture et une expérience de retour à l'essentiel qui est fondamentale. Et donc, de fil en aiguille, un peu à travers aussi son expérience, un peu comme Ignace, il a pu mettre en forme et proposer une manière de donner les exercices, non plus dans un centre spirituel ou dans un couvent, mais en se mettant à l'écoute de l'esprit qui est à l'œuvre dans le monde et dans ce que je vais vivre.
Alors qu'est-ce que vous proposez? Alors du coup, les gens pendant trois jours prennent leur duvet et ils vont dormir dans la rue, et puis... Et puis après, au bout de trois jours, vous leur faites un petit...
Alors non, peut-être que je vais laisser...
Plus sérieusement, Sophie Beauchamp.
Oui, Sophie.
Comment ça se passe concrètement, ces exercices spirituels dans la rue, Sophie?
Alors,
Beauchamp.
Les gens ne dorment pas dans la rue.
Oui, c'était une boutade malvenue, mais bon, surtout en cette période de grand
froid. Mais ils ne dorment pas chez eux non plus. Donc il y a différentes propositions, mais l'important, c'est que c'est dans un lieu qui est relativement simple. Ça peut être chez l'habitant, ça peut être dans un petit dortoir, enfin voilà. Donc il y a une certaine... précarité entre guillemets, mais un retour dans une certaine simplicité en tout cas pour le logement, voilà. Après une journée type, on se retrouve ensemble le matin pour petit déjeuner, puis il y a un lancement de la journée avec un temps de qu'on appelle pacification, voilà. En tout cas, c'est se mettre en disposition. Et peut-être pour développer le cœur large et généreux, mais aussi ça passe par le corps. Donc il y a quelque chose qui nous permet d'entrer dans cette dynamique-là, de cœur, de corps, d'esprit. Et puis, avec comme texte un peu fondateur, le texte de Moïse dans l'Exode, donc les trois premiers chapitres de l'Exode, Moïse qui chemine vers le buisson ardent. D'une certaine manière, les exercices dans
la rue. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, donc le buisson ardent, c'est cette expérience de Dieu que Moïse a fait.
Où Dieu se révèle à lui.
Dans une grotte, en fait.
Dans le désert.
Dans le désert, donc il y a un buisson qui prend feu.
Il y a un buisson qui prend feu et qui ne se consume pas. Et donc, il aperçoit ce buisson dans le désert et il va faire un détour pour aller voir ce qui se passe. Et là, il y a une rencontre forte avec Dieu où Dieu se nomme, déjà, et l'envoie.
Alors, pourquoi vous prenez particulièrement ce texte comme illustration? Parce que on voit pas trop immédiatement le rapport avec les exercices dans la rue.
Alors, les exercices dans la rue, c'est une manière de découvrir, comme les autres exercices d'ailleurs, mais une manière de découvrir quel est le buisson qui m'habite, le feu intérieur, retrouver ce lieu-là, le lieu où Dieu se révèle à moi. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'expérience spirituelle. C'est un peu la visée de chercher et trouver Dieu. Donc voilà, qui se manifeste dans quelque chose d'un cœur brûlant.
Alors, on va voir si c'est l'expérience de Damien Pichard. Damien Pichard, donc vous avez suivi une de ces retraites, donc il y a 2-3 mois, une retraite de 3 jours. Comment vous en avez entendu parler, peut-être déjà, ou tout simplement, ou enfin, qu'est-ce qui vous a décidé à suivre des exercices spirituels comme ça dans la rue?
Comment? Mais on connaît, enfin, assez vite, donc à la communauté vie chrétienne, on est très proche des jésuites, et donc on est amené à les rencontrer, les croiser. Et j'ai entendu la proposition de Yves quelques mois avant, et effectivement, ça a fait tilt.
Alors pourquoi ces exercices ont fait tilt, en fait? Qu'est-ce qu'il y avait de...
Parce que je suis naturellement attiré par la rue, et j'aime bien naviguer et marcher dans la rue depuis tout petit.
Voilà, et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être dans quel état d'esprit vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous cherchiez, pourquoi vous avez suivi cette retraite?
Alors c'est effectivement pas uniquement marcher dans la rue, ça reste des exercices spirituels. Donc effectivement, dans l'approche et dans le désir de faire cette retraite, il y avait forcément tout d'abord l'envie de rencontrer Dieu. Voilà, l'envie de prendre du temps, comme sur une retraite classique, mais de se mettre à disposition et de se mettre face à Dieu et de prendre du temps pour lui, se mettre disponible. Voilà. La deuxième chose qui m'intéressait, c'était de pouvoir essayer de rencontrer l'autre. Et pareil, de se rendre disponible et de lâcher quelque part un planning ou un emploi du temps et de pouvoir prendre le temps de regarder, éventuellement d'écouter, mais surtout de voir les autres, et quelque part voir les autres, c'est aussi se voir soi-même. C'est une manière, une sorte de miroir, et de se poser des questions sur soi-même. Et le troisième point qui m'intéressait, c'était la petite cerise sur le gâteau, mais c'était éventuellement de prendre du temps avec un SDF. Ça, c'était un choix, une envie. On a des envies, après, la réalité est ce qu'elle est. On la maîtrise pas.
Qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sans trahir les secrets du cœur, donc dans ces exercices spirituels dans la rue? Est-ce que au fur et à mesure des jours, vous êtes croyant, semble-t-il, oui. Comment vous avez vu, discerné ou appris à mieux voir et discerner la présence de Dieu, y compris dans la rue?
C'est pas évident parce que le premier jour.
Vous nous rassurez, c'est.
Oui, non, du tout. Le premier jour où on franchit la porte, on se dit voilà, on est un petit peu perdu et on ne sait pas où aller et qu'est-ce qu'on va faire et comment on va rencontrer, quoi. Ça, c'est de l'inattendu, on ne sait pas, quoi. Effectivement, la première chose, c'est de marcher et de se laisser, de s'abandonner et accepter d'être perdu. Voilà, ça, c'est déjà un premier pas vers le Christ. Et puis, c'est de croiser des visages. Effectivement, en 3 jours, on a le temps de croiser des visages, de croiser des regards. Voilà. C'est être déplacé dans l'inattendu, dans l'inconnu. C'est aussi recevoir tout ce qui nous est donné au travers des rencontres. Donc, voilà. Et accueillir la rencontre. J'ai eu la chance le premier jour, par exemple, de croiser Aristide, qui est bien connu par la communauté des jésuites, et de discuter avec lui, mais sans le, moi je ne le connaissais pas juste, du tout.
Nous on le connaît pas, Aristide, donc c'est quoi? C'est une personne qui est à la rue, en fait?
Voilà, c'est une personne que j'ai croisée dans la rue, que je ne connaissais pas, et j'ai discuté avec lui pendant une heure, et à la fin de la discussion, il m'a dit que lui, il était porté par le psaume 22, et le Seigneur est mon berger. Et voilà. Et cette parole-là m'a porté toute la journée dans mon parcours. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres exemples où pendant ces exercices dans la rue, Dieu vous a parlé quand même comme ça, à travers, je sais pas, une rencontre ou un paysage ou...
Oui, le lendemain, j'ai vécu quelque chose de très court, mais de très fort, où juste en partant, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, et le premier regard que je croise, c'est le regard d'une personne avec un visage complètement tuméfié, un visage rempli de sang, et là au milieu, il y avait deux yeux bleus. Et ça, c'est la première rencontre, et on est obligé de tout abandonner. Et j'ai voulu aller voir cette personne et lui dire que j'avais envie de passer la journée avec lui, à prier avec lui. Et il a accepté.
C'était quelqu'un qui était à la rue aussi?
Qui était là, dans la rue, oui. Et voilà, que je ne connaissais pas.
Et comment il a réagi?
Il a été surpris, il m'a dit j'ai pas le temps de passer la journée avec vous. Je lui ai dit non, c'était juste pour prier avec vous. Et il a été heureux, il m'a parlé de sa fille, il m'a parlé de sa vie, il me l'a donnée. Et voilà, pour que je la porte.
Alors peut-être l'émission, hélas, touche à sa fin. Si vous deviez, frère Yves Stessel, en guise de conclusion, ou enfin, nous dire quelle est la... redire peut-être quelle est la particularité de ces exercices et en quoi, entre guillemets, leur génie propre, quoi. On comprend qu'il y a une forme d'abandon, enfin de comment dire, de place faite à l'inattendu, à la vie.
Oui, tout à fait. Alors je crois que le génie de ces exercices, si on peut appeler ça comme ça, c'est en fait... de vraiment se mettre à l'écoute, je le redis, de l'esprit au cœur du monde. C'est sortir, comme le dit pape François, de nos églises, parce que l'esprit, il n'est pas seulement à l'intérieur de l'église, il est dehors, dans ce qu'on vit, dans les rencontres qu'on fait, dans les gens qu'on croise, dans les bâtiments qu'on voit, dans la nature, mais plus particulièrement dans les rues, parce que il y a quelque chose de l'inattendu qui peut venir nous rejoindre et nous ouvrir à des choses qu'on n'avait pas du tout prévues à l'avance. Et ça fait très souvent tomber toutes nos représentations qu'on a du monde, du Dieu, de la vie, de nous-mêmes, pour découvrir que on est des humains liés les uns aux autres. La personne que je rencontre dans la rue, que ce soit un pauvre ou une autre personne, c'est un frère et c'est l'essentiel.
Alors, pour finir, on va donner quelques informations pratiques. Donc, pour toutes les activités donc des Coto Pais, il faut aller sur leur site internet, coto-pais.net, coto-pais.net. Les prochains exercices spirituels dans la rue, c'est...
C'est du 6 au 9 avril, donc du jeudi 6 avril, 18h, au dimanche 9 avril, 19h, chez les Petites Sœurs de Jésus, rue du Vallon. Voilà.
À Toulouse. Voilà, donc il faut poser une journée en tout cas si on travaille. Et enfin, donc, Sophie Beauchamp, vous vouliez signaler donc ces sessions. C'est quoi? C'est les sessions de formation Choisir avec Dieu, formation humaine et spirituelle qui offre des repères pour discerner lorsqu'on a des choix à faire. C'est 6 mercredis entre janvier et mars. Voilà, toutes ces informations. Vous allez donc sur coto-pais.net ou alors vous appelez le 05 62 71 65 30. 05 62 71 65 30. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler des Coto Pais et de cette manière d'apprendre. En tout cas, ça donne envie à voir la présence de Dieu, la trace de Dieu dans son quotidien, y compris quand on se promène dans la rue. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.